Thomas Chabrière, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené en Chine ?
C'est une histoire de famille. Moi, ma famille vient en Chine depuis 150 ans. Je suis issu d'une famille de soyeux, de Lyon. Et au milieu du 19e siècle, il y a eu une épidémie qui a tué les vers à soie en Europe. Et ma famille s'est tournée vers la Chine. Et ça a été le début d'une histoire d'amour.
Cette histoire d'amour continue donc ?
Cette histoire d'amour continue effectivement, puisque je suis pas seul ici. J'ai ma sœur qui habite là, son futur mari aussi. On avait fait un dîner de famille il y a 2 ans. On était une bonne quinzaine autour de la table, que Français résidant à Shanghai.
Est-ce à dire que vous avez grandi et fait vos études à Shanghai ?
Alors non, pas du tout. Moi, je suis arrivé, mon premier séjour en Chine, c'était en 99 à Pékin. Je suis resté 2 ans là-bas, je suis reparti et je suis revenu à Shanghai en 2005. Donc je suis, moi, dans ma 7e année de Chine en cumulé.
Votre parcours en Chine depuis votre arrivée ? Parcours professionnel ?
Bien sûr. Alors mon parcours professionnel en Chine, il est autour de la publicité. Je suis spécialisé dans l'Internet, donc j'ai bossé beaucoup d'abord pour des startups locales. Et puis après, j'ai monté les bureaux Chine d'une agence française qui s'appelait Business Interactive et qui est devenue Digitas pour le groupe Publicis. Et après, j'ai travaillé chez DDB. Et puis au bout d'un moment, je cherchais un nouveau challenge et donc j'ai monté mon entreprise que j'ai appelée Shanghai Sideways, qui fait des visites de la ville en sidecar.
Alors, quelle est l'origine de votre entreprise Shanghai Sideways ?
Shanghai Sideways, l'origine même, c'est à Pékin qu'il faut aller la chercher. C'est un de mes plus vieux amis de Chine, il s'appelle Gaël Toro, qui a monté Beijing Sideways, donc il y a 4 ans, qui fait des visites en dehors des sentiers battus de Pékin et ses environs, en sidecar, donc ces vieilles motos à 3 roues qu'on voit dans La Grande Vadrouille ou Indiana Jones. Et puis moi, 2 ans plus tard, j'ai quitté... Mon costume de publicitaire pour mettre mes gants de moto et monter la même chose à Shanghai.
Alors comment ça se passe, une visite en sidecar de Shanghai ? Quel est votre but en faisant ces visites ?
Alors notre but, en fait, l'idée, c'est que ce qu'on appelle des insiders, nos insiders sont des chauffeurs qui ont été formés pour être guides, ne sont pas des guides à proprement parler. C'est-à-dire qu'ils sont l'ami d'amis qu'on aimerait avoir dans une ville qu'on ne connaît pas. Donc quand ils récupèrent quelqu'un pour faire un tour, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont montrer à cette personne. Et en fonction du niveau de connaissance de la ville de cette personne, de ses centres d'intérêt, de ses attentes par rapport au tour, on va construire un tour sur mesure pour cette personne, ce qui est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant, puisque le passager va avoir quelque chose sur mesure. Et puis moi, mes insiders vont pas s'embêter à toujours faire les mêmes circuits. Donc ça reste très frais, très vivant, et ils sont contents de le faire.
À qui s'adressent ces Sideway Tours ?
De 7 à 77 ans, pour tout le monde. C'est l'avantage de ces bécanes, c'est que même si on est physiquement limité, là je parle plutôt pour des seniors, on peut s'asseoir dans la bassine et on est bien à l'aise. On a fait des tours avec des personnes qui avaient des handicaps physiques parfois lourds, donc avec fauteuil roulant qu'on accrochait derrière la moto et on les balade. Mais comme ça, ils voient la ville, gagnent un peu de liberté, une fausse liberté de mouvement. Mais ça s'adresse majoritairement, on va dire, à des expatriés, des touristes et puis des personnes qui sont en voyage d'affaires et qui ont une matinée ou une après-midi libre sur leur déplacement pour essayer de voir un peu un aspect caché, on va dire, plus authentique de la ville.
Alors en dehors de l'aspect business qui est évident, est-ce que vous avez un rapport particulier avec la moto ?
Moi, mon histoire avec le Changjiang, les sidecars s'appellent des Changjiang. Ce sont des 750 cm3, mais qui ne font que 24 chevaux. Donc pour les adeptes de moto, ils comprendront que c'est des gros moteurs, mais qui n'ont aucune puissance. C'est un peu une 2 chevaux avec une roue en moins, en fait, ces trucs. Hein. Et moi, quand je suis arrivé en Chine en 99, ma maman m'avait toujours interdit d'avoir une moto. Et donc quand je suis arrivé, j'ai cherché la plus grosse moto qu'on puisse trouver. Et j'ai trouvé les sidecars. Et ça a été le début d'une histoire d'amour avec ces bécanes. Je ne suis pas du tout motard. J'ai pas de tatouage ou de gros bousons en cuir. Enfin, je viens d'acheter un cuir. Mais je suis juste fanatique de ces bécanes qui baignent dans leur jus, qui sont des motos de l'armée chinoise. L'armée s'en servait jusqu'en 97. Et donc on est vraiment... Moi, je les appelle les Harley Davidson chinoises. Et c'est juste magique de se balader ici avec ça.
Vous les avez rachetés à l'armée ?
Alors, moi, je ne suis pas allé voir l'armée pour le racheter, mais oui, l'idée, effectivement, c'est que ces motos ont été utilisées, produites et utilisées par l'armée jusqu'en 1997. Et donc, ces motos, c'est comme du vin. Plus elles sont vieilles, meilleures elles sont. Et donc, tout le challenge, c'est de trouver des motos qui datent d'avant 1997, dans la campagne, donc souvent des épaves sous un tas de paille ou de fumier même, et puis de les ramener comme on peut à Shanghai et de les retaper. Donc là, je suis en train de retaper justement 4 motos qu'on a retrouvées à l'intérieur des terres, et qu'on a acheté pour une bouchée de pain. Et la première vient d'être retapée en rouge Ferrari, donc ça fait son petit effet. Et puis on les retape au fur et à mesure pour après les mettre sur la route.
Ça veut dire que vous sauvegardez le patrimoine chinois en quelque sorte.
Ouais, si on veut. Je sais pas si les Chinois le perçoivent comme ça. En tout cas, c'est assez marrant puisque les Chinois qui eux sont sur les Changjiang, sachant que moi j'ai à peu près la moitié des gens qui font des tours pour moi sont des étrangers, l'autre moitié sont des Chinois. Sauf que les Chinois, de par la barrière de la langue, sont plutôt des chauffeurs. Donc c'est qu'on a besoin de plus d'une moto, ils suivent derrière. Et les Chinois qui sont sur les Changjiang sont assez rigolos, sont tous des personnages. Ils sont, pour la majeure partie, ou bien des anciens militaires, ou bien des artistes. Donc en tout cas, dans les deux cas, des gens avec des égos qui sont bien marqués et qui du coup se lâchent pas marcher sur les pieds, sont des grands blagueurs, etc. Alors qu'on est dans une civilisation où qui est quand même un peu en retenue. On est dans une culture asiatique où les gens ne sont pas aussi expansifs que si vous allez sur le Vieux-Port à Marseille. Forcément, c'est pas la même chose. Et là, on a des Chinois qui sont rigolards, qui sont roublards, qui piquent des gueulantes, etc. Donc c'est hyper sympa d'être avec cette communauté-là à Shanghai.
Est-ce que justement il y a une communauté de motards en Chine? Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique comme chez nous?
Alors, pas encore. C'est en train d'arriver. C'est assez drôle. J'avais une petite anecdote. J'ai un ami chinois qui était aux États-Unis, à Milwaukee, pour le meeting annuel de Harley-Davidson. Il avait loué une Harley-Davidson, il était avec des copains chinois, puis il expliquait qu'il roulait, et il comprenait pas à chaque fois qu'il croisait d'autres motards, les motards lui faisaient des grands signes. Il s'est mince, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il avait pas compris que c'était juste un signe amical entre motard, Harley-Davidson. Du coup, il passe son temps à dire coucou à tout le monde maintenant qu'il est à Shanghai. Et la culture motard commence à arriver, puisque à Shanghai, depuis à peu près un an et demi, deux ans, on peut rouler en Harley-Davidson, en Ducati, en BMW. Gros cube, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque ce n'était pas toléré d'avoir des motos de plus de 250 cm3. Ce n'est pas une loi, c'est juste que la police n'a pas plus gros que 250 cm3. Du coup, ils voulaient pas de plus grosses motos sur la route. Et puis, la police a acheté des grosses BMW, donc maintenant ça va, on peut avoir des grosses motos.
Oui, comme quoi, il vaut mieux avoir des bons rapports avec la police. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ces motos? Vous avez traversé la Chine, vous avez fait quoi?
Alors oui, j'ai fait le dernier périple que j'ai fait, c'était de Shanghai à Kunming. Kunming, c'est la capitale du Yunnan, donc tout au sud de la Chine, qui est frontalière avec tous les pays au sud, Vietnam, Cambodge, etc. Et on s'est fait un périple de 3 semaines, que par des routes de campagne. Donc on a fait 5000 km en 3 semaines, à 2 motos, j'étais qu'avec des Chinois. On a fait un petit documentaire au passage. Et pour un peu voilà partir au milieu de l'hiver, donc on est parti, on ressemblait à des bibins de Michelin tellement on était couverts. Et puis le temps d'arriver à Kunming, on était en t-shirt et une météo absolument fabuleuse. Et là l'idée c'était de faire une exploration de la Chine. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de faire de la moto, c'est que la moto est un outil social. Vous allez, grâce à la moto, les gens vont venir vers vous, vont parler avec vous, vous allez échanger avec eux, etc. Et c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Marrant, ce matin je me suis fait arrêter par un bonhomme qui me dit « Mais jusqu'où t'as été avec ta moto ?» Je lui parle de ce voyage à Kunming. Et lui, il avait un scooter LPG à gaz. Et il me disait « Ah ouais, c'est pas mal. Et tu roules combien de kilomètres par jour ?» etc. On commençait à faire des comparaisons. Lui, combien il roulait? Moi, combien je roulais? Et lui, en fait, avec son petit truc là à deux roues qui tient pas la route, il s'est quand même fait des sacrés virés. Et donc, c'était rigolo d'échanger là-dessus. Alors que je le croise dans la rue, sinon, on n'aurait absolument rien à se dire.
Mais c'est une manière d'être au plus près des Chinois.
Ouais, tout à fait. C'est le paradoxe de la moto, c'est que d'un côté, on est hyper protégé, on est dans sa bulle, puisque en Chine, vous n'avez pas vraiment la notion d'espace privé, d'espace vital. Donc vous êtes dans le métro, vous allez faire bousculer par tout le monde, les gens vont crier la queue, etc. C'est vrai qu'au quotidien, ça peut un peu taper sur les nerfs, surtout si vous allez à l'Expo Universelle, vous voyez de quoi je parle. Et le fait d'avoir une moto, on est indépendant, c'est vrai qu'on est libre. Et puis paradoxalement, c'est vrai que dès qu'on s'arrête avec la moto, les gens tout de suite arrivent, et viennent vous parler. Il y a un peu un côté syndrome de la rockstar où tout le monde vous sourit, tout le monde prend des photos. C'est assez rigolo.
C'est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous diriez à un futur client pour le convaincre d'embarquer sur votre sidecar?
Je pourrais dire satisfait ou remboursé, hein, parce que les gens sont toujours hyper contents. Qu'il faut arriver, il faut mettre de côté ces idées reçues sur la Chine. Les gens qui arrivent ici pour une première fois, beaucoup d'entre eux ne savent pas du tout à quoi s'attendre et beaucoup d'entre eux ont des idées préconçues qui sont fausses, positives ou négatives. Et il y en a une partie qui, à mon avis, ceux qui savourent le mieux leur voyage sont ceux qui, justement, gardent l'esprit ouvert et mettent de côté tout ce qu'ils ont appris sur la Chine avant. qui ne sera pas forcément faux, mais qui sera parfois incomplet ou un peu mal interprété.
Alors finalement, maintenant que vous avez monté ce type de concept sur Shanghai, vous pourrez bientôt faire un moto-tour de la Chine ?
Alors, c'est ce qu'on a, on l'a déjà monté. On a une autre entreprise qui s'appelle Sideways Escape, qu'on a montée l'année dernière. Et celle-là, en fait, on permet à nos clients de conduire eux-mêmes des motos, puisqu'on a réussi à avoir des permis de conduire temporaires pour nos clients. Et ce sont des balades qui font de 1 à 4 semaines à travers la Chine. Donc là, le dernier voyage qu'il y a eu, c'était avec des Néo-Zélandais. Je crois qu'ils ont fait 3 semaines. Et on les emmène hyper loin, toujours le coin dont tout le monde rêve, qui est beau et qui n'est pas touristique. Voilà, ceux-là, on les connaît. Et là, c'est pas moi qui fais les tours, c'est mon associé chinois là-dessus qui a vécu 6 ans en Belgique, donc il y a une double culture qui est hyper intéressante et qui, lui, est passionné de son propre pays et puis de la moto et qui emmène les gens vraiment hyper loin à travers ce pays où il y a de la place.
Voilà une belle manière de découvrir la Chine. Thomas Chabrière, merci. Bruit de Chine sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Nous écoutions l'entretien que j'ai réalisé avec Thomas Chabrière, fondateur de Sideways, qui vous emmène visiter Shanghai ou la Chine en moto. La prochaine fois que vous passez à Shanghai, n'hésitez pas à tenter le sidecar, vous ne le regretterez pas. Tous les contacts et les informations sont sur le site de Sideways et sur votre moteur de recherche habituel. Vous écoutez Pain, Bruit de Chine sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Cyril Javary est sinologue et conférencier. Son dernier ouvrage, Les Trois Sagesses Chinoises, Taoïsme, Confucianisme et Bouddhisme, aux éditions Albin Michel, sont parus au printemps 2010. Cyril Javary nous propose dans cet entretien une approche passionnante de l'univers spirituel de la Chine. On écoute Cyril Javary. Cyril Javary, bonjour.
Bonjour.
Alors, quels sont les lieux les plus visités en Chine, hormis la Cité interdite et la Grande Muraille ?
Quand on va se promener en Chine, on voit des temples toute la journée. Et donc, on se dit que les Chinois, finalement, sont à peu près comme nous, qu'ils ont des religions, des dieux, des moines. Ils n'ont pas de prêtres, pourtant, c'est bizarre.
Alors, justement, pourquoi ils vont dans un temple, les Chinois ?
Je me suis aperçu un jour au temple des lamas où il faisait froid, j'étais resté avec le guide chinois, je laissais les gens visiter tout seul. Et moi, je vois arriver plein d'étudiants, tout jeunes, tout modernes, le portable dans la poche et tout. Et je dis au guide chinois, mais c'est bizarre quand même tous ces jeunes qui viennent mettre des bâtonnets d'encens au temple des lamas. Il me répond désabusé, voyons, c'est normal, ils ont leur partiel dans 15 jours. Donc, les Chinois ne viennent pas dans les temples pour honorer quelque divinité que ce soit, comme nous pourrions penser qu'ils le font, puisque c'est comme ça que nous le faisons. Non, ils viennent pour négocier. Ils viennent pour négocier une aide momentanée auprès de quelqu'un qui pourrait le faire. Donc, on fait ça. Alors, il y a des bâtonnets d'encens spécialisés, des bâtonnets d'encens pour ramener la bonne santé, des bâtonnets d'encens pour avoir ses examens, des bâtonnets d'encens pour avoir la paix dans la famille, des bâtonnets d'encens pour devenir riche. C'est écrit dessus. Non, absolument. Et donc, ils vont demander leur aide. Et c'est comme ça que le plus grand pèlerinage que j'ai jamais vu en Chine, c'est à Huayang, dans le Henan. Quand j'ai organisé un voyage là-bas, je suis allé voir la maison de la Chine avec qui je travaille depuis longtemps. Et je leur ai dit, voilà, j'ai 20 personnes, je voudrais les emmener à Huayang dans le Henan. On me dit, qu'est-ce que tu veux les faire à Huayang dans le Henan? Il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de gare, il n'y a pas d'hôtel. Je dis, oui, d'accord. Mais tous les ans, il y a 800 000 personnes qui vont prier sur la tombe de quelqu'un qui n'a jamais existé pour lui demander de leur donner ce que le gouvernement ne peut plus leur offrir. Et ça, je voudrais voir ça. Et c'est assez extraordinaire.
C'est qui le personnage qui n'a pas existé?
Fouchi. Fouchi, l'Adam chinois. L'inventeur honoris causa des trigrammes du Yiking. L'inventeur des quatre piliers de la pensée chinoise. Les rites, l'agriculture, la cuisine et le Yiking. Eh bien, parce que vous savez qu'en Chine, le fait de n'avoir jamais existé ne vous empêche pas d'avoir un lieu de naissance, un tombeau, une histoire, etc. Et le pèlerinage sur le tombeau de Fouchi est le plus vieux pèlerinage de Chine. Il a été instauré en 780 avant Jésus-Christ. Et c'est aussi le plus long pèlerinage de Chine. Il dure pendant une lunaison entière, en février tous les ans. Il n'a été interrompu que pendant 10 ans. Devinez lesquels.
Devinette. Est-ce que la langue est la clé de voûte de la pensée d'un peuple? Parce que vous passez beaucoup de temps à analyser la structure des caractères. Alors on a l'impression que c'est la clé pour comprendre la pensée chinoise.
Mais c'est la clé pour comprendre toutes les pensées nationales. Les mots sont les outils avec lesquels on pense. Et c'est pour ça que plus on connaît de langue, moins on a de chance d'être bête, disait mon vénérable professeur Kirill Rijik, qui lui lisait et écrivait une dizaine de langues. Et pas les plus simples, le russe, l'hébreu, le chinois, le finlandais, etc. Et que donc, pour rentrer dans la structure de pensée d'une culture différente, il faut rentrer dans sa langue. Bon, l'ennui, c'est que le chinois n'est pas une langue, c'est une écriture. Donc, pour rentrer dans la structure de pensée chinoise, il faut rentrer dans l'idéographie. Et des gens qui ont parfaitement compris ça, ce sont les missionnaires bouddhistes. Le mal qu'ils ont eu pour transcrire en idéogramme les idées du bouddhisme. Parce que on s'en rend pas compte, nous, on peut incorporer des idées chinoises sans aucune difficulté. Yin-yang, par exemple. Il suffit d'écrire Y-I-N-Y-A-N-G et l'affaire est faite. Oui, mais à l'inverse, ça marche pas comme ça. Une idée, un concept, un mot, un nom, pour rentrer en Chine, il doit se vêtir d'habits chinois. C'est-à-dire s'écrire en idéogramme. Et donc, quand les missionnaires bouddhistes ont commencé à arriver en Chine à partir de la fin du 1er siècle de notre ère, ils ont eu un mal de chien pour traduire les concepts excessivement abstraits du bouddhisme en idéogramme. Bon, il faut dire qu'il y a eu au début une difficulté. Quand ils commençaient à raconter leurs histoires, les Chinois les écoutaient et puis disaient « Mais on connaît bien ce que vous voulez dire, là, le vide, la vacuité, on sait très bien, là, notre patron Lao Tzu, il nous en a parlé déjà depuis 500-600 ans. » Et justement, notre patron, vous savez, il est parti vers l'ouest, après avoir franchi la passe et dicté le Lao Tzu aux gardiens, vous savez. On ne sait pas où il est allé, ben maintenant on sait. Il est allé chez vous, il est allé enseigner votre patron. Et donc, finalement, ce que vous nous racontez, ben, c'est juste la version chapati de ce que disait notre patron. Et c'est comme ça que le bouddhisme a été d'abord traduit en chinois avec les termes du taoïsme. Le nirvana, on appelait ça wu wei. Quand même, faut le faire. Les sutras, on appelait ça jing, comme le Tao de Jing. Bon, ça a duré. Et puis, quand même, il y a eu des moines, des fervents bouddhistes chinois qui, au bout de 200-300 ans, dit non, il faut réfléchir un peu plus. Et à ce moment-là, ils ont inventé des termes spécifiques au bouddhisme. Et comme le bouddhisme est par nature prosélyte, puisque le bouddhisme du grand véhicule qui était en Chine, c'est des gens sympathiques, ils estiment que ça ne vaut pas le coup d'être sauvé, d'arrêter de souffrir, s'il y en a encore qui souffrent. Donc il faut que tout le monde soit sauvé. C'est pour ça qu'on l'appelle grand véhicule, c'est un autocar. Le petit véhicule, c'est un monoplace, chacun a son salut et tout. Donc, il faut convertir le maximum de gens. Nous, on dit convertir, mais les bouddhistes disent sauver de la souffrance le maximum de gens. Résultat, il faut que les idées bouddhistes se développent. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'imprimerie. Le premier livre imprimé du monde, en 850, attention, c'est le sutra du lotus de diamant. Et c'est grâce à cette volonté d'expansion du bouddhisme qui venait à l'encontre de la, comment dire, de la vénération de la calligraphie au pinceau, qui est un des fondements de la Chine, que s'est développée l'imprimerie en Chine, quelque temps avant un certain Allemand à Mayence.
Alors on a parlé du bouddhisme et de ses rapports avec le taoïsme, mais qu'est-ce que veut dire le mot Tao et qu'est-ce que ça signifie ?
Rien.
Le vide.
Non. Ah non, le vide, ça a été très compliqué. Il y a plein d'idéogrammes pour dire le vide. Le plus courant, il faut au moins 18 coups de pinceau pour l'écrire. Ça, c'est l'humour chinois.
Donc on va s'en tenir au Tao.
Le Tao, je dis que ça veut rien dire, c'est un mot banal. Excessivement banal. Ça veut dire le comment que ça marche. Mais le fonctionnement des choses, c'est Jean-François Bitter, ce merveilleux sinologue suisse, qui nous en a donné la véritable traduction, c'est le fonctionnement des choses. Et il y a une question qu'on me pose souvent et qui m'énerve particulièrement, c'est quand les gens disent Tao, en français, il faut l'écrire avec un T majuscule ou avec un D majuscule. Ça m'énerve quelquefois au point de gifler. Je dis, vous l'écrivez comme vous voulez, mais surtout pas avec une majuscule. Parce que précisément, si les taoïstes, pour expliquer ce fonctionnement naturel des choses, pour nommer, ils nous ont prévenus, ce qu'on nomme le Tao, c'est pas le Tao, parce que par définition, il ne peut pas être nommé. Donc Tao, c'est le pseudonyme de ce qui fait que le printemps suit toujours l'hiver l'été suit toujours le printemps. Pour ça, il fallait un mot. Ils ont choisi le plus banal qui soit. Fonctionnement des choses. Et si vous utilisez cette traduction, à ce moment-là, vous voyez tout de suite à la fois la profondeur et l'humour taoïste. Je prends la grande phrase de la plus classique sur le yin-yang qui se trouve dans le yi-qing d'ailleurs. Yin-yang zhe ta. On la traduisait avant, un yin, un yang, c'est le Tao. Et chacun ajoutait dans le fond de son cœur, tellement c'était pompeux, mes bien chers frères. Eh bien, grâce à Jean-François Bitter, maintenant, on sait très bien ce que ça veut dire. Et on y retrouve tout l'humour taoïste. Un coup yin, un coup yang, c'est comme ça que tout fonctionne.
Effectivement. Alors, vous allez chercher les racines du taoïsme du côté du chamanisme. Ça m'a beaucoup étonné, j'y avais pas pensé.
Bon, enfin, voyons. De toutes les civilisations qui sont nées sur le continent eurasien, la chinoise a une particularité qui la différencie de toutes les autres. Toutes les autres sont nées de migration, de conquête. Ça commence avec les Aryens qui descendent du plateau iranien vers moins 5000 et qui commencent à conquérir petit à petit la péninsule indienne. Une affaire qui n'est toujours pas réglée, si vous remarquez, avec les Tamouls tout en bas, hein. Ne parlons pas des migrations celtes qui ont peuplé l'Europe, ne parlons pas du peuple hébreu dont l'histoire commence bien par un voyage. Dieu dit à Abraham, fais tes valises, et va-t'en, quitte Ur en Chaldée. Ne parlons pas de la dernière civilisation née sur ce continent, la civilisation nord-américaine, qui naît du voyage du Mayflower, et qui est toujours à la recherche de sa nouvelle frontière. Et quand ils ont buté sur le Pacifique en Californie, ils sont allés la chercher dans le ciel. Et quand ils ont atteint la Lune, ils sont allés la chercher ailleurs, entre le Tigre et l'Euphrate, on sait ce que ça a donné. À la différence de ça, les Chinois habitent depuis toujours dans le pays où ils habitent maintenant. Ce sont des agriculteurs sédentaires. Eh bien, quand vous cultivez le même lopin de terre pendant 10 000 ans, ça crée des liens. Parce qu'on cultive les céréales en Chine depuis que les céréales font partie du patrimoine de l'humanité. Et en particulier, ça donne cette perception de l'invisible que les paysans sont seuls à avoir. Quand un paysan prend une motte de terre, les miettes entre ses doigts et dit « Ah, ça c'est de la terre à maïs », il n'a pas fait l'INRA, mais il sait, parce qu'il sent. Et quand vous faites ça pendant 10 000 ans, ça donne une évidence de l'invisible, qui fait que tout naturellement le vieux chamanisme néolithique n'a jamais été contrecarré en Chine par de quelconque dieu masculin céleste et monothéiste, et que donc il a toujours droit de citer, et qu'il a pris entre autres formes la forme du taoïsme populaire. Mais si vous remarquez, les deux versants de l'âme chinoise, le versant solaire, public, le versant confucéen, le versant lunaire, secret, le versant taoïste. Eh bien, le versant confucéen solaire, il a émigré en Corée, au Japon, au Vietnam. Mais le versant taoïste, non, il n'y a pas de taoïsme coréen, il n'y a pas de taoïsme japonais. Et pourquoi? Parce que le taoïsme est la forme qu'a pris en Chine ce vieux chamanisme. Au Japon, il a pris une autre forme, le shintoïsme, le Tao des esprits, qui est la forme qu'a pris ce vieux chamanisme néolithique dans l'île japonaise. En Corée, c'est pareil. En Corée, vous ouvrez les pages jaunes, si l'on peut dire, du dictionnaire de la ville de Corée, et vous avez le numéro de téléphone des 8000 chamanesses officiellement enregistrées dans la ville de Séoul. Et vous vous souvenez des Jeux Olympiques à Séoul? Il y a eu deux cérémonies d'ouverture. Une à 15h avec tout le tralala, poète, bon. Mais il y en a été précédé le matin même, d'une autre, à 7h du matin, quand les journalistes occidentaux dorment, dans laquelle le maire de Séoul, accompagné de la reine des chamanesses, a purifié le stade où devait avoir lieu l'ouverture pour en chasser les mauvais esprits. Comme ça, après, à 15h, on pouvait faire le tralala médiatique.
C'est vrai que c'est un autre monde. Dans votre livre, vous posez une question, Voltaire était-il confucéen? Alors c'est quoi la réponse?
Voltaire était quelqu'un pour qui la liberté et la justice comptaient par-dessus tout. Il s'est dépensé énormément pour lutter contre les injustices de l'absolutisme royal. Quiconque estime que la justice et la dignité humaine sont des valeurs fondamentales est confucéen. Parce que Confucius ne dit finalement pas grand-chose d'autre. Il s'y rajoutait un détail, à savoir que quand, par le biais des récits qu'en faisaient les jésuites, Voltaire prenait connaissance du système des examens, qui permettait à n'importe quel Chinois d'accéder au plus haut poste de l'État. On a vu des fils de paysans devenir premier ministre avec ce système. Eh bien, ça lui plaisait beaucoup, parce que c'était une arme absolue contre le pouvoir absolu, contre l'absolutisme royal, qui est une forme de tyrannie que Louis XIV et ses arrière-petits-fils ont imposé à la France pendant deux siècles, et dont, heureusement, la Révolution nous a débarrassés. Et on peut se souvenir de ce que disait le poète « Dors-tu content, Voltaire? Et ton hideux sourire vole-t-il tige encore sur tes eaux décharnées? Ton siècle était trop jeune pour te lire? Disait-on, le nôtre doit te plaire et tes hommes sont nés. Il est tombé sur nous, ce vaste édifice que tu sapais avec tes larges mains. »
Donc Voltaire confucéen, en conclusion. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ces trois sagesses chinoises que vous évoquez donc dans cet ouvrage, le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme, ont eu un impact sur l'Occident?
Aucun. Malheureusement, pour celle que je préfère, dont vous avez pu deviner de laquelle elle est. Par contre, leur image a eu énormément d'impact. Taoïste est un adjectif qui fait vendre, ici. Essayez de vous installer, d'ouvrir une boutique et de dire « Ici, massage confucéen ». Vous n'irez pas loin. Par contre, vous écrivez « Ici, gymnastique taoïste », vous faites le plein en une semaine. Et que donc, au niveau des fantasmes, le taoïsme plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est tellement fumeux qu'on peut y mettre ce qu'on veut. En revanche, le taoïsme, le bouddhisme, le confucianisme plus exactement, c'est tellement simple que c'est vachement dur à mettre en pratique. Parce que les bases du confucianisme, par exemple, ne jamais juger les autres. C'est utile, hein, quand même. Je vais vous donner une phrase de Confucius que j'aime beaucoup. Si tu vois quelqu'un qui se conduit bien, imite-le. Si tu vois quelqu'un qui se conduit mal, tenez, Françoise Aubjoie, terminez la phrase. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ne pas l'imiter, surtout. Le fuir.
Le fuir. D'autres possibilités?
On ne peut pas le supprimer, ça ne se fait pas.
Ah bah si, c'est ce que font les intégristes. Tue-le. Vous avez la réponse chrétienne, pardonne-lui. Vous avez la réponse républicaine, apprends-lui, etc., etc. Et toutes ces réponses, ce n'est pas celle de Confucius. Parce que toutes partent d'un seul point de vue, je juge l'autre, et je juge qu'il est mal et que je suis bien. Et ça, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'a dit Confucius? Je vous reprends la phrase entière. Si tu vois quelqu'un qui se conduit bien, imite-le. Si tu vois quelqu'un qui se conduit mal, cherche en toi en quoi tu le limites.